Qu'importent les pressions et les menaces, rien désormais ne pourra m'obliger à me taire.
Je pense qu'en fait, il y a une réelle peur de ce qui peut émerger des facs et des lycées, de se dire qu'il y a des gens qui sont jeunes et qui n'ont pas envie de ce système. Les lycéens se politisent parce que les lycéens qui sont là, ils ne sont pas là juste pour sécher des cours ou quoi. Ils se sont levés à 5h, 6h du mat pour faire des blocus.
Le fait de rester assis sur une chaise pendant toute une journée, toute la semaine, en fait, c'est un truc que normalement, on ne devrait pas faire.
T'apprends un programme qui est décidé par des dominants, par une majorité de mecs blancs. On t'apprend l'histoire des vainqueurs, l'histoire des colonisateurs, l'histoire de l'Europe, qui est une histoire dégueulasse.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir son petit pavillon, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un chouette tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau.
Moi, j'ai plus rien à faire ici. Adieu, vous ne me reverrez jamais. Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
Ciao, ciao, ciao. Allez, bye, bye, je me barre.
Je m'en vais au bout du monde. Bon voyage.
Ciao, troupeau. Chaque semaine, de 18h à 19h sur Radio Centrafrique. Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Nous sommes le lundi 22 mai, il est 18h, c'est aujourd'hui le 555e jour consécutif sous état d'urgence en France et notre nouveau chef des armées parade déjà en Afrique devant les caméras. Pour un businessman, le minimum c'est d'aller voir ses meilleurs clients avant tout, ça paraît bien normal. Et sinon, il n'a qu'une semaine à peine et à lui tout seul il explique ma quasi-solitude dans les studios. Bienvenue à toi Léandre, j'espère te croiser un de ces quatre derrière un micro ou une banderole du cortège de tête. En attendant, fais bien tes dents, tu vas en avoir besoin, c'est sûr. Allez, bonjour à vous, auditeurs, auditrices, si vous nous rejoignez dans cette 10e émission de Ciao Troupeau, soyez les bienvenus, bienvenue à l'heure où les partis se battent pour un pouvoir illégitime et mafieux, à l'heure où Mickey Trump porte la kippa à Jérusalem, où le ministère des droits de la femme disparaît, où l'on nomme un directeur du nucléaire à la tête du gouvernement, le tout très sereinement, bref, vous êtes bien à l'heure de la merde générale. On n'en fera pas un slogan en manif, mais j'avoue, ça pourrait sonner. Bon, puis face à tout ça, on est là, accrochés à nos 7 collines, entourés de brebis et le printemps faisant son office. On y est plutôt pas mal quand même dans cette vallée, on entendrait presque le petit glouglou de la sorgue dans les micros du studio. Bon, faudrait ignorer 2 ou 3 détails, à commencer par les caméras centrafricaines qui nous guettent et dont le budget ressemble finalement à celui de l'EPR de Flamanville. 30 000 euros, c'était apparemment pas suffisant pour 4 caméras. En tout cas, si la mairie n'est pas encore au courant et qu'elle nous écoute, qu'elle sache que les 20 000 euros de rallonge pour la surveillance auraient pu sauver Radio Saint-Afrique. Peut-être même Radio Larzac aussi d'ailleurs. Allez, courage les copains, on pense à vous sur le plateau. Et puis, dans tout ce joyeux bordel, on va se concentrer aujourd'hui sur des initiatives positives et constructives. D'abord sur le plateau 2000 vaches dans le Limousin et ensuite à Camarès, puisque nous avons des invités en direct. Je ne suis pas tout seul. Salut Nico, salut Mathilde.
Salut. Allez,
bienvenue.
Merci.
Et puis on se retrouvera du coup nous en fin d'émission pour parler de la maison commune de Camarès. En attendant, comment parler du plateau de 1000 vaches sans évoquer Tarnac et son affaire terroristo-anarcho-autonome black bloc de l'ultra-gauche Limousine? Ben, on n'a pas réussi. Vous êtes bien sur Radio Saint-Af. Comme chaque lundi, on vous parle depuis les tréfonds du studio de lutte, d'histoire du pays, de politique et de bien d'autres choses. Rejoignez la meute et ciao troupeau.
Aouh.
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 Aouh. Aouh.
Je vous en prie.
Merci.
Je vous en prie.
Monsieur le Président.
Non, je vous en prie. Je vous en prie. Des comportements qui ne sont vraiment pas responsable. Je vous en prie. Madame le ministre.
Ce matin, à l'aube, 10 personnes appartenant à l'ultra-gauche mouvement anarcho-autonome ont été interpellées en Corrèze, à Rouen, en région parisienne et dans la Meuse, dans le cadre de l'enquête sur les actes de sabotage commis contre des caténaires SNCF au cours de ces derniers jours. Les perquisitions sont actuellement en cours. Je veux souligner que l'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la Direction centrale du renseignement intérieur. En effet, depuis mon arrivée au ministère, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale. Ce matin, à l'aube, 10 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête.
Il y a beaucoup de gendarmes et la police judiciaire.
On croirait que Zorro est arrivé.
Et on croirait vraiment le tournage d'un film.
Moi, ça me paraît énorme, énorme.
Ah, il y a beaucoup de gendarmes.
Il y en a qui disent qu'ils cherchent ceux qui ont fait des gars sur les lignes de chemin de fer.
Sur les actes de sabotage
que j'ai appris à la boulangerie tout à l'heure.
Contre des caténaires SNCF au cours de ces derniers jours.
Ils en ont arrêté deux, là, une fille et puis un gars.
Mais moi j'en ai vu un qui sortait là-bas avec les menottes et un autre là-haut, vu.
Et je les connais de vue comme ça, qui habitaient un logement là, au-dessus de la mairie.
Les perquisitions sont actuellement en cours.
C'est pas au niveau de votre
chambre. Ah, j'y suis.
Il y a quelqu'un ?
Oui, mais c'est fermé, madame.
À leur arrivée, ils ont été perçus comme une secte.
C'est pas une secte, hein. Ils jouent de l'accordéon, du violon.
Maintenant, ils se sont très bien intégrés.
Et ils sont très gentils, très honnêtes.
Très polis, très sympas.
Moi, je leur donnerai mon portefeuille.
Donc on arrête des gens comme ça en plein tarnac. Moi, ça me paraît énorme, énorme.
Et c'est ainsi que cette opération a été décidée et donc a été réalisée ce matin à partir de 6h.
Ça en parle déjà à la radio ?
Ah, ils en parlent depuis ce matin.
À Tarnac, un petit village.
Et à Tarnac en Corrèze, parviennent du village de Tarnac en Corrèze.
Et en Corrèze,
surtout en Corrèze.
Que le village de Tarnac en Corrèze.
Tarnac, sur le plateau de Millevaches.
C'est dans cette ferme à l'abri des regards.
Ils avaient choisi de vivre à l'abri des regards.
Ils vivaient dans une petite épicerie tapis dans l'ombre.
Le village de Tarnac est bouclé par la gendarmerie.
Les hommes de la brigade antiterroriste et de la police judiciaire cagoulés, armés, ont enchaîné interpellations et perquisitions sous les yeux ébahis de la population.
6h ce matin, après une enquête vraiment express, c'est ce que l'on appelle une enquête éclair.
Et l'enquête est donc allée très vite.
L'enquête a été menée très rapidement.
C'est allé vite, très vite même.
Dès l'aube, dans ce petit village corrézien, village littéralement pris d'assaut par des dizaines de voitures banalisées, des motos, des fourgons, qui ont donc investi la toute petite place de l'église. Personne ici n'imagine ou ne veut imaginer que l'épicier du village était peut-être tout simplement membre d'un commando terroriste.
Des jeunes très gentils, hein. Serviable et tout, et ils faisaient pas de bruit, hein. Ils s'occupaient pas des uns et des autres.
Parce que ces gens-là étaient très sympathiques. Je joue aux échecs avec Paul, qui est un grand champion d'échecs. Hein. Je vois pas pourquoi on arrête ces gens-là. Hein. Moi, ça me paraît énorme, énorme.
Perquisition
énorme.
Fructueuse est une information RTL. Perquisition fructueuse après les interpellations.
Les perquisitions se sont succédées. Perquisition très fructueuse, comme RTL vous le révélait dès 18h. Les policiers ont ainsi mis la main sur une précieuse documentation, notamment un descriptif des voies TGV de la SNCF, un objectif apparemment bien étudié par ce groupuscule, à sa portée dans tous les cas pour une action commando.
Selon nos informations, les enquêteurs y ont découvert une bibliothèque bien achalandée.
On travaille sur ce qu'un enquêteur appelle un groupuscule semi-clandestin dont le but était de déstabiliser la société. Alors ces militants d'ultra-gauche étaient donc sous surveillance. Ce sont des anguilles, ils étaient extrêmement méfiants, ils prenaient d'intenses précautions. Poursuit ce policier qui est plutôt fier du boulot de renseignement qui a été mené jusque-là.
C'est une action, on va dire, de police exemplaire. C'est une enquête qui a montré l'efficacité de l'État.
Je veux souligner que l'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la Direction centrale du renseignement intérieur. En effet, depuis mon arrivée au ministère, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême-gauche radicale.
Vous avez des petits groupes qui envisagent la lutte individuelle, qui rejettent l'élection, qui prônent ce qu'ils appellent eux-mêmes l'action directe, ce qui en jargon anarchiste signifie l'acte terroriste.
Il s'agissait donc bien d'actes de terrorisme, d'actions concertées et non pas de la malveillance.
Des militants classés dans la mouvance autonome de l'ultra-gauche qui sont quasiment tous des fils et des filles de très bonnes familles.
Appartenant à une mouvance anarcho-autonome d'ultra-gauche.
Cette mouvance anarcho-autonome.
À l'ultra-gauche, mouvement anarcho-autonome.
Alors est-ce que cette ultra-gauche se situe à la gauche de l'extrême-gauche? J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'elle est ailleurs, si je puis dire, et difficile à cerner. En fait, ce courant de pensée qui est plus intellectuel qu'opérationnel, sauf exception, la preuve. Et alors attention, ne me faites pas dire que les saboteurs du réseau ferroviaire sont avant tout des philosophes. Ils s'inscriraient plutôt, quant à eux, dans la lignée des activistes qui, aux marges d'une gauche très radicale, s'en prennent depuis longtemps au symbole d'un État qu'ils jugent aliénant et répressif.
Et qu'on est beaucoup plus dans une optique spontanéiste. C'est un projet de révolte brute, j'allais dire.
Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution.
La démocratie ne saurait tolérer une expression qui soit radicale et qui soit violente. Nous ne la tolérerons pas et tous les services de police et de gendarmerie sont mobilisés à cette fin.
Qui sont ces Proudhon des caténaires, ces Bakounine de l'aiguillage?
Les individus se caractérisent par un discours extrêmement violent.
Il y a incontestablement une radicalisation depuis l'entrée en fonction de Nicolas Sarkozy.
Allez.
Ciao troupeau. Meute média contre masse média.
Vous êtes bien à l'écoute de Ciao Troupeau, vous venez d'entendre un petit montage qui a été fait sur l'affaire de Tarnac qu'on trouve assez facilement sur internet et qui n'a a priori pas d'auteur, tout simplement. Alors l'affaire de Tarnac, on voulait revenir dessus parce qu'on va parler du plateau de Mille Vaches et on peut pas trop ignorer cette affaire. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous fais un petit descriptif préparé à la va-vite sur un bout de papier. L'affaire de Tarnac, c'est tout d'abord des faits qui se sont déroulés entre le 7 et le 8 dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 et c'était une histoire de sabotage de lignes de TGV. Trois jours plus tard, commando policier qui débarque dans le petit village de Tarnac, donc en Corrèze, dans le Limousin. 10 personnes sont placées en garde à vue, une perquise énorme, notamment au magasin général, l'épicerie du village, avec un dispositif policier énorme, donc 10 personnes placées en garde à vue pour plusieurs jours. Normalement, une garde à vue, c'est 48 heures, mais sauf que là, c'est 4 jours de garde à vue, avec 5 détentions provisoires à la fin de ces 4 jours, pour des gradations en réunion, en relation avec une entreprise terroriste. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit, selon la police et le procureur à ce moment-là, avec aussi l'inculpation d'associations de malfaiteurs. Alors, c'est quoi ces faits, en fait, qui sont reprochés? C'est l'installation d'un fer à béton coudé sur un caténaire de ligne TGV. Donc, cette nuit-là, il y a un bout de ferraille qui a été foutu sur les caténaires, grosso modo, hein, et un TGV passe à 5h du matin, forcément, ça fait un petit bzibzit, un petit court-circuit, le TGV s'arrête, ils enlèvent le bout de ferraille et ils repartent. Menace aux personnes, on peut se poser la question de savoir si des personnes ont été menacées par cette action. Sauf que du coup, quand même, il y a 10 personnes qui sont inculpées et dont 5 en détention. Le 19 décembre, donc si vous avez bien suivi, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vous dépanne, c'est-à-dire à peu près un mois et demi après les faits, le juge des libertés et de la détention relâche pas mal de gens. Trois personnes, et donc deux restent en détention, Julien Coupa et Ildune Lévy, qui font de nombreuses demandes de libération, sauf que le parquet fait toujours des appels suspensifs, qui sont assez rares dans ces cas-là, et qui en fait maintiennent de toute façon les présumés coupables en détention. Donc ça, c'était l'année 2008. En 2009, Julien Coupa est finalement libéré, le dernier qui était encore enfermé à cette époque-là. Et il est placé sous un contrôle judiciaire très sévère et très strict. En attendant, dans toute cette affaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent très bizarrement. Donc déjà, l'inculpation pour le chef de terrorisme est largement discutable dans l'affaire. La justice, elle s'acharne également à travers le parquet qui fait systématiquement appel de toutes les décisions qui sont dites par les juges. À chaque fois, il y a vraiment des appels qui sont d'ailleurs parfois par des procédures rares, comme je l'expliquais juste avant. Et puis aussi, il y a des histoires de corruption et de discutailles avec les médias grand public, comme l'a été révélé en 2012 par le Canard Enchaîné, mais j'y viens un petit peu plus tard. La police dans cette affaire, eh bien, en fait, elle est assez de mèche, disons, avec la justice, puisque les dépositions des policiers attestant que la voiture de Julien Coupa a été vue, notamment près des caténaires dans la nuit des faits, sont en fait des dépositions qui sont largement suspectées d'être fausses, donc avec des fausses écritures qui sont, je l'ai appris aujourd'hui en préparant ce papier, les fausses écritures de la part de flics sont des crimes, ils sont passibles de 10 ans de tôle quand même. Et puis après, d'un autre côté, il y a aussi tout le volet des politicards qui fabriquent en fait cette terreur en fait, et qui fabriquent le terrorisme pour lequel ils sont inculpés, avec des cerveaux, des groupes anarcho-autonomes comme on l'a entendu. C'est assez rigolo de voir, d'entendre plutôt le vocabulaire utilisé par les politiques à ce moment-là. On nous parle d'anguilles, etc. sur les médias. C'est assez sympa, notamment avec des RG aussi qui ont fait un travail, grosso modo, quand même plutôt merdique, à moins que ce soit les politiciens qui les servent, qui n'ont pas compris la transmission de vocabulaire, etc. Bref, beaucoup d'amateurisme au niveau politique aussi. Et puis, bah, des médias en fait, qui se font l'écho de ces trois corps-là, de la justice, de la police et de la politique, avec... ouais, voilà, on a entendu hein, des médias, des radios notamment là dans le montage qui précédait, qui utilisaient vraiment concrètement les dépêches de l'AFP mot pour mot, et les dépêches de l'AFP qui étaient mot pour mot le vocabulaire des procureurs et autres grosses merdes qu'on peut croiser dans les tribunaux. Bref. Donc, un juge antiterroriste était sur l'affaire. En 2012, il démissionne, enfin, il jette l'éponge sur cette affaire-là. Il démissionne pas, faut pas exagérer. Il demande juste à être dessaisi de l'affaire parce que le Canard Enchaîné a révélé un mail qu'il avait envoyé en off, disant que, s'adressant aux amis de la presse libre qui n'est pas affilié à Coupa et à son avocat Assous. Bref, ça avait fait tout un soin. Et donc, du coup, le juge, justement, qui était... peut-être il a été dessaisi, faut fouiller un peu plus, parce que franchement l'affaire est hyper complexe, et je me suis mis un peu le défi de l'expliquer en 10 minutes, je sais pas, ça va faire pas loin de 10 minutes déjà. Donc voilà, je rappelle le montage qui a été trouvé sur le net, vous pouvez le retrouver, il est sur YouTube, mais j'aime pas faire de la pub pour eux, mais voilà. Et puis, alors oui, je voulais rappeler aussi qu'il y a un truc un petit peu qui me dérange un peu dans ce montage quand même, et je voulais en parler, c'est les paroles des habitants qui disent grosso modo, ouais, ils avaient l'air gentils quand même, et donc ça pourrait rappeler un petit peu les discours qu'on peut entendre quand on a n'importe quel terroriste qui se fait péter aux abords d'un stade ou ailleurs, on va interviewer tout de suite le voisin qui dit ils ont l'air gentils, etc. On pourrait un peu faire le lien avec ça, mais en fait, il faut quand même souligner qu'un comité de soutien aux inculpés par les habitants a été monté dans les jours qui ont suivi en fait la descente des flics, et que du coup, quand même, les voisins qui disaient ils ont l'air gentils, en fait, on peut penser qu'ils le pensaient.
Ciao, troupeau!
Bienvenue hors du troupeau.
Et de retour dans les studios de Radio Saint-Aff pour la suite de ce Ciao Troupeau. On a parlé de l'affaire Tarnac. Tarnac est donc connu pour cette affaire de terroristes de l'ultra-gauche anarcho-autonome. Oui, tremblez, citoyens et citoyennes. Mais le plateau des mille vaches, c'est bien d'autres choses que juste cette affaire Tarnac, comme on nous le vend à longueur de journaux et à longueur d'émissions radio. Et justement, on est dans les studios avec Marianne. Salut Marianne.
Salut.
Et donc du coup, peut-être je vais te laisser te présenter et pourquoi tu voulais venir parler un petit peu de ce plateau.
Donc moi, effectivement, donc je suis habitante du plateau de Mille Vaches, donc sur la montagne Limousine. Moi, l'affaire Tarnac, je pense que, alors c'est des gens qui sont presque mes voisins. Vu que j'ai grandi à quoi 30 bornes de Tarnac.
Ouais.
Et j'ai gardé toujours une certaine distance, notamment pendant l'affaire. J'ai pas pu, et je pense que le contexte faisait que j'ai pas pu aller à la rencontre des personnes faisant partie de ce collectif. Et là, récemment, donc j'étais habitante du plateau, je suis partie pendant une dizaine d'années vivre autre chose en ville, dans le sud. Et là, cet été, je suis revenue, j'ai fait, pour la première fois en 8 ans, du coup, depuis qu'ils sont là, j'ai fait la rencontre des personnes de Tarnac, des personnes vivant à Tarnac et pas que, des personnes vivant dans les villages alentours et défendant des projets, donnant un sens à leur vie que je trouvais juste, qui correspondait à ce que moi j'avais envie et ce que j'arrivais pas à faire en ville. Et du coup, j'ai décidé d'aller m'installer vers cette charmante bourgade qui est Tarnac en juin dernier, et j'y suis encore. Le plateau de Mille Vaches, il est à cheval sur 3 départements, qui sont la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. C'est un plateau, comme vous en avez par chez vous aussi.
Mais oui, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi qu'on trouvait intéressant de parler un petit peu de ce qui se passait là-haut, en dehors de tout le bruit médiatique qui peut entourer l'affaire Tarnac. Il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre des choses qui se passent là-bas et certaines choses aussi qui se passent ici, même si après les parallèles peuvent souvent être trompeurs. Et du coup, peut-être on pourrait présenter un peu ce qui se passe là-bas, au-delà de l'épicerie et du magasin général, etc. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas que ça qui se passe.
Oui, il faut faire en sorte, je pense, un peu que cette couverture médiatique qui a été utilisée contre et en grande majorité, qui a porté du tort quand même pendant un certain temps aux personnes habitant là-bas. Je pense que c'est une bonne chose d'essayer de profiter autrement, en fait, même si ça aurait été mieux que ça se passe par d'autres voies. Mais profiter de cette couverture médiatique peut-être pour parler d'autre chose, en fait, que cette affaire Tarnac qui a été fantasmée exagéré au possible par les journalistes. Et quand je suis arrivée, j'avais une partie de ce que disaient les médias et j'avais une partie de ce que disaient les habitants du plateau et comment les choses sont déformées facilement à la campagne, comme ailleurs. Hein. Ouais. Moi, j'y suis allée à la base sans me dire je vais y trouver des compagnons dans la lutte et que je voulais rencontrer les personnes à la base.
Parce que du coup, il y a quand même pas mal d'actions qui sont portées aussi par des collectifs, assez flous en fait au final, et qui mettent en place des trucs vraiment chouettes. Peut-être tu peux nous en parler un peu. On parlait de la fête de la montagne Limousine notamment.
Il y a une dynamique un peu, je pense, une fois sortie de ces années. Après ça, c'est mon analyse et ça ne tient qu'à moi, mais il y a une période de parano, il y a une période où les uns se regardaient de loin en ayant peur et en se disant quelle est la part de vrai. Et du coup, c'était pas évident de créer du lien. Je pense même pour les gens du collectif qui ne correspond et n'est pas du tout ce qu'on appelle le groupe Tarnac. Le collectif, c'est quelque chose de mouvant. Il y a des gens qui restent et des gens qui partent. Il y en a qui se retrouvent dans certains écrits qu'on a attribués au groupe de Tarnac, d'autres non.
Ce qu'on disait, c'est qu'ils mettaient en place d'autres trucs, quoi, voilà. Pour justement refaire du lien peut-être entre
voilà.
Les gens.
Là, on est dans une dynamique, je pense qu'ils sont dans une dynamique très forte de plus s'ancrer sur les territoires. À la base, il y avait une lutte qui dépassait un peu en fait le territoire, ce qu'ils ont défendu, et en fait, je pense que avec le temps, ils se sont rendus compte que ils le savaient déjà, qu'ils arrivaient sur les personnes qui sont venues s'installer au tout départ du collectif, ils savaient qu'ils arrivaient sur une terre qui était assez militante, communiste. C'est un maire communiste qui les a accueillis, mais sans vraiment réaliser qu'en fait, cette envie de changer les choses, cette envie d'avoir une prise sur notre temps, il était aussi possible sur le territoire. Parce qu'il y a d'autres gens, il y a d'autres groupes, il y a des néo-ruraux qui sont là, qui étaient là déjà depuis 15 ans avant eux, des groupes comme Ambiance Bois, qui sont... C'est une petite entreprise où tout le monde a le même salaire, c'est défini au tirage au sort qui sera le patron. Enfin voilà, il y avait toutes sortes d'initiatives qui existaient déjà et qui se regardaient de loin un peu depuis quelques années.
Ouais.
Et là, il y a une vraie dynamique. On se rend compte que quelque part, on peut dire tous ensemble, nous sommes le territoire et nous pouvons avoir une influence sur ce qui s'y passe. Et on n'a pas envie de... C'était déjà au niveau nationale. On sait très bien que tout ça, c'est du foutage de gueule, comme les élections, on l'a vécu de cette façon-là. Et du coup, on a envie d'agir à notre niveau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Sont mis en place des événements du style la fête de la montagne limousine, qui existe depuis 3 ans maintenant. Ça va être la 3e édition cette année. Donc, c'est le format d'une fête, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui rassemble, c'est fédérateur, la fête. Et on peut arriver quand même à amener des sujets sérieux au sein d'un événement comme celui-là. Donc, la fête de la montagne limousine, c'est une fête militante, où se retrouvent un peu toutes ces personnes qui ont fini par atterrir sur le plateau de Mille Vaches parce qu'elles savaient que c'était une terre qui est fertile et qui attend ça, en fait, ce genre d'initiative, parce qu'on était désertifiés. Et du coup, l'arrivée des néo-ruraux amène quelque chose quand même d'assez fort. Et cette prise de conscience qu'en fait, on n'est pas si peu nombreux sur le plateau de Mille Vaches à vouloir que les choses changent. Et peut-être qu'on peut avoir la force pour que ces choses changent.
Comme je le ressens, c'est vraiment pour moi une sorte de dynamique de réappropriation du territoire.
C'est ça.
Et autant par des gens, par un collectif ou par en tout cas un groupe de gens qui se revendiquent de différents horizons, quoi.
Oui,
et...
c'est des groupes affinés, un peu à la manière de... Bon, c'est loin de ce qui se passe à la ZAD, mais il y a quelque chose, je pense, une volonté qu'il y ait quelque chose de... Ce laboratoire de la ZAD soit un peu recréé à l'échelle des territoires, ça serait quelque chose d'assez magnifique, parce que c'est sur un combat commun. Malgré les différences politiques, que vous veniez d'un parti, que vous soyez anarchiste, que vous soyez un punk, à la ZAD, on arrive à se retrouver en fait sur ce combat commun et à cohabiter ensemble, qui est quelque chose d'assez extraordinaire quand même, parce qu'il y a certains groupes, on n'y aurait jamais cru, tu vois, que la cohabitation serait possible. Et en fait, on se rend compte que voilà, les néo-ruraux bobos ou baba ou ce que tu veux, en fait, on défend des choses en commun. Peut-être que notre façon de vivre au quotidien, c'est pas exactement la même, mais on a ces choses qu'on veut défendre en commun sur le territoire et que des outils comme la fête de la montagne limousine peuvent nous permettre d'amener. La fête de la montagne limousine, c'est 3 jours en septembre, mais c'est des réunions publiques tout au long de l'année avant pour décider des thèmes dont on va parler. Donc cette année, par exemple, ça va être la forêt à nouveau, parce qu'on subit des coupes rases à tout va sur le plateau de Mille Vaches et c'est horrible. On a l'impression d'être au milieu de champ de bataille. On parle de la question des nouveaux arrivants, du coup, vu que c'est l'avenir de nos territoires et le dynamisme et la richesse aussi qui viennent de ces nouveaux habitants. Et du coup, on amenait une politique d'accueil encore plus forte et encore plus militante, autre que, parce qu'il y a déjà une politique d'accueil forte sur le plateau de Mille Vaches, mais des institutions. Et nous, ce qu'on aimerait créer, c'est que cette politique d'accueil, elle amène aussi à donner une visibilité qu'on est un territoire qui se bouge, on est un territoire qui veut pas se laisser faire et on a besoin de monde avec nous, en fait. Plus de nouveaux arrivants arriveront avec cette idée-là de nous sommes le territoire et on vient sur un endroit où on veut avoir un impact et ne pas se laisser bouffer. Ça serait quelque chose de formidable.
Mais moi, je trouve que justement, ce slogan-là que vous portez, nous sommes le territoire, il est hyper intéressant justement pour recréer ce lien entre les gens qui ont vu leur territoire vieillir et se désertifier et les gens qui viennent le repeupler, plein de projets et plein d'envie aussi derrière. Et du coup, on parlait de la fête de la montagne limousine. Là, il y a un site web qui s'appelle montagnelimousine.net où vous pouvez trouver toutes les infos.
Tout à fait.
Aussi, on a évoqué très rapidement le club communal. Il a fallu longtemps. Il a fallu longtemps, mais ces jours-ci resteront pour longtemps. Des mois, des années que nous nous débattons, chacun dans nos coins, chacun dans nos vies, nos projets, nos familles, nos groupes, nos assos, nos tafs. Nous sommes là, nous persévérons, nous chantons, nous dansons, nous pleurons, nous buvons, on crie, on frappe, on s'énerve et on attend le printemps. Les temps sont durs, ils sont crus, le fascisme n'est plus à venir, il est partout, tellement qu'on ne sait plus par quelle boule prendre. Le sentiment de l'urgence nous prend à la gorge, d'autant plus en ces temps de matraquage pré- et post-électoraux, où les petites phrases et les raccourcis vendeurs font la chasse à la pensée.
Il va falloir s'organiser.
Rien à faire des élections, mais ça change quoi?
Et que va-t-il se passer si c'est machin qui
passe? Il est grand temps.
Il faut agir, être là où ça se passe, mais en même temps, ne pas lâcher prise sur ce que nous faisons ici. Les temps sont durs, ils sont crus et ils s'accélèrent. Ici, on cherche à s'organiser comme on peut, comme d'autres d'ailleurs. Mais en ces temps qui filent, nous ne voyons pas de sens à ne pas le faire avec tout le monde, enfin, avec ceux qui en sentent le besoin. Un temps pour s'arrêter, discuter, s'organiser, agir, ne plus subir la course du monde depuis ici. Pas une réunion, pas un apéro, mais un club.
un club communal pour discuter, penser, s'écouter, s'organiser à différents niveaux, à différents rythmes, sans attendre. Un rendez-vous régulier pour ne plus juste se regarder le nombril, en chien de faïence, comme deux ronds de flanc, le blanc des yeux pour briser la mer de glace entre et autour de nous et avancer ensemble. La publication que vous tenez entre les mains et que vous venez d'entendre est le bulletin du club communal. Il est un fil tendu entre nos différentes rencontres. Il y sera question des sujets qui nous occupent à mesure qu'ils apparaissent, des événements publics initiés par le club ou de ceux qu'il aura jugé intéressant de relayer. On y trouvera aussi des écrits, des interviews, des images, des poèmes, des annonces.
Alors, le club communal, moi, de premier abord, quand on a commencé à lancer, l'idée a été lancée par les gens du collectif qui voulaient justement se renforcer le lien avec tous les collectifs ou personnes essayant de défendre d'autres façons de travailler. Il y avait un lien à recréer, il y avait un besoin de recréer ce lien. Du coup, est venue l'idée du club communal. Comme je dis, moi, au début, club et communal, je trouvais que c'est des choses qui font flipper. Ça ressemble à une sorte de...
Je ne sais pas trop de quoi.
Mais c'est conseil municipal, club communal. Ça ressemble à quelque chose d'encore trop institutionnalisé pour moi à la base. Mais à en discuter, à comprendre cette signification du mot club, qui à la base n'était pas forcément quelque chose de une réunion de personnes pour le loisir. Non, à la base, c'était aussi des réunions politiques, les clubs. Donc il y a eu une volonté de se réapproprier un peu ce mot-là. Et le communal fait plus référence au bien commun. Je pense et à la commune et à
l'organisation à petite échelle, en fait, peut-être simplement.
Mais en même temps, ça peut être bizarre parce que ça a l'air de tenir à une commune, le mot club communal, alors qu'en fait, on est des personnes venues de communes différentes du plateau et qui se retrouvent.
Et du coup, alors, vous vous réunissez et vous faites quoi?
L'idée, déjà, il y avait une idée assez large. On ne voulait pas se fermer de trop. Mais l'idée, c'est de parler de ça. C'est un peu du bien commun et comment nous, on conçoit les choses dans l'avenir et comment on peut arriver à avoir une influence là-dessus. Donc, il y a été aussi parlé des problèmes de la forêt parce que c'est quelque chose qui est très compliqué et sur lequel avoir une influence, ça va être
un
sacré combat. Ouais, voilà. Et les élections présidentielles ont été discutées, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, nous on est abstentionnistes et on le défend, est-ce qu'on va rester honteux chez nous à laisser ce discours du Front Républicain envahir les ondes et... Non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire nous, petit club communal qui existe depuis 3 séances, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a monté une petite buvette qui s'appelait chez Nini, le dimanche du second tour devant les bureaux de vote.
Nini?
Et ni l'un ni l'autre. Et pour discuter, en fait, il y a eu des gens de tous bords qui sont venus. C'était sans armes ni violence. L'idée était vraiment d'aller faire ce lien parce qu'on se rend compte qu'il est indispensable maintenant plus que jamais, comme il a un peu exprimé dans l'édito. Et ça a très bien marché. On a été dans la bonne humeur toute la journée. Je pense que ça a fait du bien à certains de voir qu'il y avait des abstentionnistes qui étaient là, qui étaient dans la joie de leur marche et pas dans la honte et à baisser les yeux parce qu'elle est défendue jusqu'au bout des ondes, notre démarche. Donc c'était bien. C'est des petites choses comme ça. En fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'il y a une très belle dynamique qui est en train de se faire et j'espère qu'il va se répandre sur des territoires comme le vôtre, et c'est déjà probablement le cas. Il y a des centres sociaux qui s'ouvrent, il y a autogérés.
Ouais, voilà, il y a différentes luttes qui sont portées. C'est vrai que c'est intéressant de faire des parallèles entre ce qui se passe sur un plateau et ce qui se passe à côté d'un autre. Et du coup, votre slogan, un de vos slogans aussi, c'est le plateau insoumis ou
c'est
voilà.
C'est ça. Malheureusement, c'était des années, bien des années avant la France insoumise.
Ben, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter.
Défendre l'idée qu'il faut s'ouvrir, que près de chez vous, il y a probablement aussi des collectifs et que c'est pas facile de les aborder. Moi-même, je peux le dire, ayant passé 8 ans avant d'aller faire un premier pas pour aller rencontrer les gens qui avaient ce positionnement et qu'il faut y aller, que c'est pas facile mais qu'il faut le plus s'ouvrir parce qu'il y a une vraie force à tirer de tout ça et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, moi je la vois comme ça la révolution en fait, on se rend compte que tous sur nos petits territoires, surtout peut-être à la campagne et dans les milieux ruraux, il y a une vraie émulsion en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se faire et je pense que moi je vois là-dedans la révolution future.
Excusez-moi, vous faites quoi dans la vie?
Ah oui, vous ne travaillez pas.
vous faites comment pour vivre alors?
Ah oui, le RSA.
Vous êtes une communauté?
Vous dormez tous ensemble? Vos enfants?
Ils vont à l'école?
Vous venez d'où? Vous n'êtes pas du coin? Vous n'êtes pas véronais?
Ouais, ça s'entend. C'est à vous tous ces camions?
Et les vélos? Où allez-vous?
Vous êtes pour qui? En fait, il y a quoi dans cette maison?
Il y a un trou dans le mur! Quand tu pisses, on voit les légumes! Il y a le chauffe-eau qui est tellement petit, on peut même pas en tenir un demi! Mais en plus, des fois, il y a des grandes cuillères en bois! Mais le cueilleur, on s'en rend pas! Il y a un radio cassette, c'est vraiment la merde! On capte pas la radio! En plus, on a pas de cassette! Puis il y a une théière, je sais pas quoi en faire! C'est les quatre accrochés, on peut même pas les attraper! Il y a un poil qui fume, qui fume, qui fume, qui fume, qui fume, qui fume! Puis une porte, une fenêtre, des fenêtres, une porte! Mais c'est quoi, bordel? Une porte, une fenêtre!
Et vous êtes bien à l'écoute de Ciao Troupeau sur Radio Saint-Taf avec les invités en studio. Bonjour Nico, bonjour Mathilde.
Salut.
Donc vous venez nous parler, on a entendu le son juste avant, on peut parler de ce son, il est trop bien.
ouais, mais c'est deux copains qui ont fait cette petite chanson en pensant justement à ce dont on va te parler, la maison commune.
Ouais, bon, la maison commune. Ok, bah vas-y, on est parti. C'est quoi la maison commune? C'est où? C'est qui? C'est quoi?
Ça fait beaucoup de questions.
Ouais.
Pour l'historique, la maison commune, c'est une maison qui a été achetée il y a maintenant un peu plus de 3 ans par un ensemble de personnes à Camarès qui étaient là déjà depuis, qui sont arrivés là et qui étaient là depuis déjà un certain temps pour certains, et qui s'organisaient déjà ensemble, enfin qui partageaient beaucoup de moments ensemble, qui s'organisaient déjà ensemble pour un certain nombre de choses, que ça soit parfois faire du pain ou
jardin.
Ou du jardin ou et il y a eu cette maison qui était en vente, et une des personnes a dit, mais en fait, moi, je peux l'avancer. Et l'idée, du coup, mais en fait, ça serait intéressant parce que les gens en question n'habitent pas ensemble, on est un peu éparpillés dans le village, mais ça serait beau d'avoir un espace commun qui puisse nous servir d'une part, mais qui puisse aussi être saisi par d'autres personnes, que ce soit vraiment un espace ouvert, quoi.
Ok. Ouais. Ça a été mis en place, du coup, il y a 3 ans, à peu près.
Oui.
Ok. Et du coup, depuis, il s'est passé quoi? Alors, cette maison a été achetée, déjà?
Oui. Au début, il y a eu des assemblées générales, il y a une association qui a été créée au sein de la maison commune, un peu comme un outil. Et du coup, dedans, il y a un atelier graphique, où il y a eu notamment des ateliers périscolaires, qui a été ouvert une fois par mois pour que les gens puissent venir utiliser le matériel. Il y a une presse et des caractères de typographie, notamment.
Ok.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, une petite cantine, mais en fait, on fait manger les enfants, nos enfants, tous les midis. Il y a d'autres mamans qui sont venues se greffer à ça. Du coup, il y a 8 enfants, là, actuellement.
D'accord, ok. Donc,
qui mangent tous les midis.
Ok.
À la maison commune.
Ça marche.
Voilà, plein de choses. Et avec plein de nouveaux gens aussi, depuis que cette maison existe et a été achetée.
Qui sont greffés au projet, quoi, au fur et à mesure, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ok.
Oui, puis je pense. En fait, c'est important peut-être de rappeler que ça s'inscrit, je pense, dans quelque chose qu'on partage. Enfin, les personnes, en tout cas, qui sont à l'initiative, on va dire, et qui maintenant font vivre cette maison, c'était l'envie vraiment de recréer ou de réinventer des formes de commun. Qui ne soit pas une maison habitée, mais qui soit une maison où on puisse venir y faire des choses.
Qu'on puisse s'approprier un peu.
Qu'on puisse s'approprier, ouais. Ça,
ouais.
Après,
qu'on puisse partager, oui.
Ouais. Et de fait, ça, bon, après, c'est pas forcément. Ça n'a pas pris des proportions. On va dire qu'il y a quelques personnes qui sont pas mal impliquées là-dedans, mais. On a la volonté, évidemment, que ça s'ouvre à tout le monde. Après, c'est pas forcément évident pour tout le monde de venir, j'ai l'impression, de venir de soi-même.
Dans un lieu inconnu.
Voilà, rencontrer un groupe.
Du coup, ce rapport-là aux habitants de Camarès, il a évolué aussi avec le temps, j'imagine. Vous avez, enfin, je sais que là, par exemple, j'ai devant les yeux un petit, je sais pas comment on appelle ça, une petite brochure, un petit dépliant, je sais pas comment on appelle ça, qui s'appelle Une maison commune, qui présente un peu le projet, quoi. Mm.
Ben ouais, ça évolue. Je pense qu'il y a plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on y fait, qui viennent parfois, enfin, ou porter des choses ou donner le coup de pouce.
Il y a eu quelques événements aussi. On a fait la fête de la châtaigne au mois de novembre, où les gens étaient hyper contents de pouvoir danser, manger, mais aussi voir. Ce qu'on pouvait y faire. Il y avait aussi quelqu'un qui venait presser les pommes, etc. Donc ça, c'est des choses qui parlent qui parlent aux gens de manière générale. Et puis il y a eu des projections aussi sur la place, il y a eu des fêtes, et tout ça fait que, et puis nous, chacun, en fait, parce qu'il y a la maison commune où on passe du temps, mais en fait on fait pas que ça.
Forcément,
et du coup on rencontre des gens par ailleurs. Et voilà, et donc petit à petit, on les invite, etc. Et petit à petit, ça crée un lien, quoi.
Bien, quoi, forcément.
Ouais, voilà.
Ok, ça marche. Et du coup, je sais pas trop sur quoi on pourrait un peu partir. Je pense que c'était intéressant aussi ce que t'expliquais, Nico, là, sur la démarche de partage et tout. C'est aussi réinventer des organisations différentes, quoi, j'imagine.
Ben ouais, ça, je pense qu'il y a un peu de quelque part, enfin, pour ceux qui connaissent, qui existait peut-être dans les villes, c'est pas la seule source d'inspiration, mais il y a eu dans à certains endroits de ce qu'on appelait des communaux. C'était des espaces dont il y avait un usage commun et dont l'entretien était commun. On a connu les maisons du peuple dans les villes. Il y a eu aussi les droits d'affouage au niveau des forêts pour, à certains endroits, et qui sont des choses qui se perdent et que nous, on ne conçoit pas qu'on puisse vivre chacun. Enfin, je pense qu'on partage beaucoup ça, qu'on puisse vivre chacun dans notre petit coin, notre petite maison, avoir notre travail, notre famille. Je pense qu'on fait ce choix aussi de peut-être pas avoir des schèmes de vie, on va dire, les plus conventionnels par rapport à ce que l'époque offre ou propose ou nous oblige. Ce qui rend peut-être pas forcément toujours l'image, avec les habitants se demandant mais de quoi vivent ces gens. Mais en fait, d'une part, comment on s'organise beaucoup ensemble, parce qu'on n'a pas dit, et ce qui est important, c'est qu'en plus de la maison, on a aussi un terrain qui est collectif. Qui est assez grand, un terrain de 7 hectares où on produit, on essaie de produire un maximum aussi de ce qu'on mange. Je crois que
c'est... Ouais, du coup, tu parlais de l'image aussi qui est renvoyée, quoi ces gens vivent, ces trucs-là, quoi.
Ça, je pense, c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est vrai que comme on s'organise ensemble, et en fait, on produit en partie de ce qu'on mange, et en fait, on n'a pas besoin de...
On répare nos voitures.
On répare nos voitures, on a un atelier. Et en fait, on peut se permettre de vivre avec peu d'argent, on va dire, en soi. Et on vit très bien parce que... c'est un choix de vie.
Ouais, bien sûr.
Forcément... C'est aussi... ça part aussi du constat que, vivre à la campagne, pour plein de gens, c'est en fait y revenir le soir et y vivre le week-end. Mm-hmm. Mais aller travailler au bourg le plus proche, ça devient un petit peu des déserts comme ça, alors même s'il y a des choses qui s'y passent, pas du tout, il y a des choses qui préexistaient à la maison commune évidemment, mais c'est vrai que nous on a envie de de vivre ensemble et que nos vies soient pas que le travail, manger, produire et la famille, quoi. Ça, je crois que c'est...
Et c'est intéressant parce que vas-y.
Une forme, c'est la lutte aussi comme forme de vie, quoi. Je sais pas si c'est assez clair.
C'est assez clair et je trouve que ça fait écho pas mal à l'introduction de votre petite plaquette, là, où vous faites un peu la comparaison... pas la comparaison, mais en tout cas, une sorte de constat aussi que, justement, le monde rural, ou en tout cas les petites villes, les petits villages, ça s'endort un peu et qu'il n'y a plus grand-chose qui fait sortir la vie, quoi, à part les activités quotidiennes.
Oui, c'est vrai que, à Camarès, il y avait, quand on nous raconte, il y avait déjà beaucoup plus d'habitants, donc les maisons étaient occupées, ce qui est quand même plus le cas, il y a beaucoup de maisons fermées, de résidences secondaires, etc. Et y avait un cinéma ambulant, il y avait une foire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait les vraies Folies Bergères qui étaient une fête, juste dont tout le sud d'Aveyron se rappelle. Je crois qu'on a un peu envie de retrouver une sensation comme ça d'habiter un endroit et d'y vivre, et que en fait on vit pas là comme on vivrait partout ailleurs, je sais pas comment dire, on s'y attache parce que aussi on a des liens avec les gens, qu'on partage des choses, qu'on s'organise ensemble. C'est aussi l'exemple tout bête que je donne, c'est il y a des gens, ils ont choisi, mettons, de pas avoir d'enfants, mais c'est pas pour ça qu'on doit choisir absolument une vie où on ne croise jamais d'enfants. Et en fait, le schéma familial est hyper, c'est un petit noyau comme ça où c'est hyper chouette de pouvoir, de pouvoir côtoyer des enfants qui sont pas forcément les miens et avec qui on a quand même, qu'on les connaît, qu'on peut rigoler avec.
À travers la cantine, là, tu parles notamment, j'imagine.
C'est
une expérience. Peut-être on peut en parler un tout petit peu de cette cantine. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Comment l'idée elle est née, ou ça s'est mis en place naturellement?
S'est mis en place assez vite, quand même, dès que les enfants sont arrivés à l'école. Hormis le fait que la cantine est hyper chère et qu'on était un certain nombre de mamans seules, au sens séparées. soirée, voilà, et que du coup, il y avait, et que en fait, on, c'était aussi compliqué pour nous de faire manger tous les midis les enfants, parce que pour plein de raisons différentes.
Ouais, ouais.
Du coup, on s'est mis d'accord entre, à la base, on était 4 mamans, et puis petit à petit, ça s'est étoffé,
ouais.
Et donc on fait manger les enfants une fois par semaine chacune. Par deux, et voilà, du coup on fait manger une fois tous les 15 jours pour tous les enfants et les adultes qui sont là. Et puis il y a des copains qui s'y greffent, voilà, qui parfois...
qui filent la main.
Ouais, quoi. Voilà, c'est ça.
C'est hyper intéressant parce que ça, en fait, ça montre juste en fait que c'est possible, alors que tout le monde laisse ses enfants à l'école en mode rien d'autre est possible, voilà. Ça offre des alternatives en fait de la même manière que la maison commune veut le faire, j'ai l'impression.
Oui, non, mais c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais.
Ok, ça marche. Du coup, tout ça, tout ce qui se passe à la maison commune, c'est dans un rapport non marchand.
Ouais. Oui, ça, on y tient à cœur. Après, c'est dément ce qu'on appelle non marchand. Il n'y a pas de volonté de théoriser. Après, il y a...
Non, c'est juste, vous n'êtes pas là pour faire de la thune.
Ah quoi. Non, on n'est pas là pour faire de la thune, non.
Voilà.
Non,
on sait pas faire en fait. Même si on voulait, on n'y arrive pas.
c'est pour ça qu'on a acheté une maison en commun.
Exactement. Ok, ça marche. Mais, du coup, il y a des rendez-vous à venir ou peut-être on a oublié de dire des trucs.
Ce que je pensais bien de signifier, peut-être, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais je pense aussi le choix de s'ancrer dans un territoire et de créer des choses dans ce territoire-là. C'est aussi un rapport, on va dire, de vision politique plus large à ce qui se passe autour de nous, qui est assez catastrophique, je pense, et on ne voit pas le bout. Et que je pense qu'on est beaucoup à estimer qu'on n'a plus rien à attendre des institutions politiques classiques, que ce soit au niveau national ou... et que, en fait, si on veut pouvoir s'en sortir dans ce merdier qui est en train de se... Enfin, qui est déjà là et qui a l'air de s'empirer, il faut, en fait, prendre les choses là où on est et s'organiser entre nous. Je pense que c'est aussi un des présupposés qui fait qu'on est ensemble. Et
Ouais. Bah, le constat est simple et logique assez implacable. Mais voilà.
Et sinon, pour les petits rendez-vous à venir, lundi soir, donc lundi 29, concert, rendez-vous à 18h à la Maison Commune. Et après, on partira ensemble. Il y a une piste carrossable sur un terrain. Donc, c'est glossolalie, c'est du baroque dyslexique. voilà, on peut dire que c'est Gong qui ferait du free jazz. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement.
Ok, ça marche.
18h à la Maison Commune.
18h à la Maison Commune.
À Camarès.
Place
du Pont Vieux. Et d'ailleurs, les autres jours, on peut s'y pointer aussi, toquer à la porte et dire bonjour ou pas
ouais,
trop.
Ouais, c'est toujours aussi, ouvert ouais. Et okay. Voilà, c'est toujours possible de se faire un café, de discuter, de trouver quelqu'un.
Ok, ça marche.
Voilà.
Et ben, un moyen de vous contacter autrement qu'en passant ou pas trop?
On n'a pas prévu cette question.
Non, je sais pas.
Y a un mail.
On n'a pas encore de téléphone.
C'est pas le truc alerter les bergers ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors,
un
je l'ai
mail.
Devant les yeux. C'est alerterlesbergères@laposte.net. Voilà, tout attaché, sans accent, à l'impératif. Avec
super.
Un Z, du coup, dans alerter.
On pourra le mettre sur le site internet.
Ouais, bien sûr, on mettra des liens sur la page du podcast de cette émission. Du coup, vous avez le choix. Ah ouais, non, bah non, je. Bon, bah voilà, on en reparlera plus tard parce que j'ai pas le nom du titre. Vous avez des choix entre deux musiques, mais je peux pas vous dire le nom du titre, alors du coup, ça va être compliqué de vous présenter. Krav Boka, du hip-hop punk toulousain ou Homophobia du rock pop anglais des années 90.
Ah bon.
Moi, je veux bien le premier.
La première. Krav Boka, du hip-hop punk toulousain, avec le titre qui n'est pas sorti il y a très longtemps, qui s'appelle Agrigno Toulousi.
Les valeurs de Rivarol, et n'y crois pas, mon gagne-pain se porte bien, ou ouais, nique sa mère, le όσο ενοχή παιδί το θέλουν. Ναι, Αθήνα ζω μια ήρεμη ζωή και ανταμοιβή να μην ζητώ, να μην φωνάξω, να μην διεκδικώ. Και πως όσα εισπειρά είμαι ανέξως να γευτώ. Πέθε ψεύτημα, αν κάτι καλά δεν διεκρινά. Η επιβίωση στην κοινωνία μοιάζει με κρωμάτων 1%. Να ζεις από Θεό και οι υπόλοιποι να φκόνται να καγκένηθεις αυτό απλά.
Exactement, les apparences te mentent. Et c'est volontairement et consciemment que je parle vulgairement et grossièrement. Agis calmement, quelques mots moins verment. Je reste un garnement jusqu'à mon enterrement. Tout calmement, comme une aimant. Quand le Satan te suit comme un aimant. En pleine obscurité, un teint d'obscénité qui vire à l'absurdité.
J'ai des vues sur ton exil proche. Encore et encore, la fuite au fond des poches. Notre doigt levé devant ta Porsche. Petit Machiavel, la tendance colérique, je t'entends frauder. Le fisc, putain, tiens peu de risques. C'est clair, c'est Bouen et ton parc pour les baléares. Pendant que Natal Ayen attend de purger sa peine. Vengeance des villages, vendant des rivages. Ma province te salue, te saigne à blanc si tu insultes.
Les glosses à l'encala, pour ça qui s'y cocala. Ma, mais pas mène en spa, pèse mon pio spigue brosta. Y exélexi, ne sélexi, n'a dit si sta gnosta. Une διαφορά, το πριν και το μετά, απ' την προσπάθεια. Έχω μάθει και έχω μάθει από δαίμονες και πάθη. Μα μάθα να μ' αγαπώ πλέον. Νούμι ξενινάτη και το πιο σημαντικό.
Et ça y est, c'est décidé, je vais décimer pour dessiner ma destinée. T'es dépité, y'a trop d'idées, alors tu fais que débiter. Des débilités, c'est une nécessité. Avec ce que je vois et ce que j'entends, je rêve de sordidité ou de cécité. Je rappe mes vérités avec sincérité. Comme un mec bourré sur un balcon, il est temps d'aller séquestrer ton patron. Le bande par la cravate et la bouche au plafond.
Ça m'appelle bien Richemelo, mais la banca.
Trying to destroy all government.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
The siren of the ambulance, the deadpan of the cops. Chalk to mark the outline where the boy first drops. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times.
Et ben voilà, vous avez eu le droit aux deux pour le prix d'un. On peut même dédicacer la seconde à Cyril Hanouna qui a fait de la grosse merde dans Touche pas à mon poste. Ça vous apprendra à allumer trop la télé. Voilà, donc ça s'est fait. Du coup, j'ai enchaîné les deux morceaux que j'avais proposés à nos invités, qui sont déjà repartis. On les salue s'ils sont à l'écoute dans la voiture. Donc, j'ai dit de la merde tout à l'heure. Hein. Le titre, donc, c'était Homophobia, et c'était de Chumbawamba, un groupe anglais de plutôt punk rock plutôt que pop rock. J'ai dit de la merde tout à l'heure, donc je me suis dit, allez, on passe les deux parce que je l'aime bien aussi l'autre. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous réécoutez en podcast www.radiosaintafrique.com. Voilà, vous trouvez les podcasts sur le site internet. Nous, on est en direct un lundi sur deux. On est en rediffusion l'autre lundi sur deux. Donc ça veut dire qu'on se retrouve tous les lundis soirs à 18h sur Radio Saintafrique. C'est ciao troupeau. J'espère que le petit Léandre va bien, que Nico est à l'antenne, à l'écoute. Peut-être oui, peut-être non. Bref, j'arrête de dire des conneries. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter en nous envoyant un mail à ciaotroupeau, tout attaché en minuscule, @radiosaintafrique.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre, ce serait cool, parce que voilà, ça m'éviterait de faire des émissions tout seul, où je fais parfois quelques petites erreurs et que je suis un peu dissipé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Ciao Troupeau. D'ici là, restez bien branchés sur le 96.7. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? Quelque chose à part à la semaine prochaine? Allez, salut, ciao, ciao!
Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Ciao, ciao, le troupeau, je me bats. Je m'en vais broutiller autre part. Ciao, ciao, le troupeau, je me bats. Je m'en vais broutiller autre part.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs.
Ciao troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saintafrique.
Ciao troupeau.
Now open your eyes and switch off this recording. And prepare yourself for the next section on Program 2.